OK, on va continuer notre série sur glorifier Dieu dans votre corps. On avait commencé la semaine dernière un nouveau sujet à l'intérieur de cette glorifier Dieu dans votre corps, le jeûne biblique dans le but de la piété. Je trouve que le titre est important parce que le jeûne, il y en a beaucoup qui le pratiquent, mais pour des raisons médicales ou pour des raisons de santé. Ce qui n'est pas mauvais nécessairement en soi, là. Mais nous, ce n'est pas de ce jeûne-là qu'on parle. On parle du jeûne biblique, parce que dans les Écritures, il y a plein d'exemples où il y a des gens qui ont jeûné, mais pour des raisons bien particulières. Et tout ça, c'est quand on se met à regarder l'ensemble de ce que la Bible dit sur le jeûne, il y a beaucoup de choses qui est dit dans la Bible pour le jeûne. Et la deuxième partie du titre, le jeûne biblique, dans le but de la piété. Alors, quand on jeûne, il faut toujours que le but soit de se rapprocher du Seigneur, puis de devenir plus pieux, de devenir meilleur qu'on l'était avant de commencer. Et c'est ce qu'on avait commencé à regarder un petit peu la semaine dernière. Alors, on rappelait que le jeûne était souvent aujourd'hui mal compris, peu pratiqué, et il était, en général, je dirais, beaucoup évité de beaucoup de chrétiens, en tout cas. Peut-être pas la totalité, mais c'est pas une pratique qui est très populaire, qu'on pourrait dire. Alors, plutôt qu'aujourd'hui, on dirait que notre société favorise davantage la gloutonnerie, l'autocomplaisance, l'égocentrisme, et on est peu porté à ce qu'on appelle le renoncement à soi-même, la discipline spirituelle. Alors, on avait regardé différentes choses la semaine dernière. Je voudrais rappeler ce que Wayne Grudem dit dans son manuel de théologie systématique. Il dit « La plupart des chrétiens occidentaux ne jeûnent pas, mais si nous étions prêts à jeûner plus régulièrement, ne serait-ce qu'en sautant un ou deux repas, nous pourrions être étonnés de la puissance et de la force spirituelle que nous aurions dans nos vies et dans nos églises. » Alors, quelque part, il y a quelque chose d'intéressant à dire, de dit là. Autrement dit, si on le faisait, on obtiendrait plus de choses, plus de puissance, plus de force spirituelle. À quelque part, on se devrait au moins d'être attentif pour examiner le sujet. Alors, on avait regardé Wayne Grudem l'a défini de façon suivante. On va reviser rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière. Lui, il dit que c'est une discipline spirituelle consistant à s'abstenir de nourriture, partiellement ou entièrement, pendant un temps donné. Dans la Bible, le jeûne accompagne souvent la prière pour marquer l'intensité de l'intercession, l'intensité de la repentance, l'intensité de l'adoration et l'intensité de la recherche de Dieu. On pourrait regarder différents versets dans les Écritures, différents exemples de personnages qui ont jeûné pour différentes raisons. C'est ce qu'on va regarder au cours des prochaines semaines. On avait vu aussi que une personne peut arrêter de manger pendant plusieurs dizaines de jours et il n'y a pas dépendamment de ta constitution, mais on avait vu que 3 jours, normalement, c'était le nombre maximum de jours qu'on peut prendre sans boire. On avait regardé les différentes sortes de jeûnes. On va les réviser très rapidement. Le jeûne normal, qui implique l'abstention de toute nourriture, mais non de l'eau. L'autre, le jeûne partiel, c'est la limitation de la nourriture. Alors, la limitation, c'est que quelqu'un peut continuer à manger, mais il peut couper des repas, des choses semblables. C'est quand même une forme de jeûne. Le troisième jeûne, c'était le jeûne absolu. Donc, l'abstention de toute nourriture et même d'eau. On avait vu différents exemples des Écritures et on a vu que il y a eu, dans les Écritures, quand la Bible nous parle de jeûne qui dure comme 30, 40 jours, Moïse, par exemple, Jésus, 40 jours, c'est pour qu'une personne humaine normale puisse passer à travers, il faut qu'il y ait un soutien divin. Parce que normalement, quelqu'un qui ferait ça, il ne passerait pas à travers. Alors, on avait vu qu'il y avait un jeûne surnaturel. On avait vu qu'il y avait un jeûne privé. C'est celui qui se fait secrètement quand on n'annonce pas aux hommes qu'on jeûne, on jeûne. Personne ne s'en aperçoit, un peu comme le Seigneur dit, lorsque tu jeûnes, lave-toi le figure, organise-toi pas que ça paraisse. Les pharisiens faisaient exactement l'inverse, eux autres, ils avaient l'air retirés. Ils voulaient que le monde s'aperçoive. Et il y avait le jeûne, on était rendu là la semaine dernière, le jeûne congrégationnel. Il est arrivé des exemples dans les Écritures où un groupe de croyants complets, une partie d'Israël, par exemple, qui ont jeûné dans le but de s'humilier ou d'obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Donc, un jeûne et une repentance collective. C'est une prise de conscience, à un moment donné, que tu t'es éloigné de Dieu. Les gens joignaient le jeûne à une repentance, donc à l'abandon des péchés dans lesquels ils étaient engagés. On était rendu là. Le septième sorte de jeûne, donc on avait vu qu'il y avait... Je me souviens bien, il me semble qu'il y avait... On était rendu au septième. Le jeûne national. Il y a eu des exemples d'un jeûne pratiqué par toute la nation à cause des catastrophes et de bouleversements. On a l'exemple, par exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 13, le roi Josaphat, devant l'invasion militaire de son pays par les ennemis. Alors, Josaphat, il voit ça, puis il est découragé, bien dur. Parce qu'il se rend compte que les ennemis qui l'attaquent sont plus puissants que lui, plus nombreux que lui, et là, il a comme peur, et il demande à son peuple de se joindre à lui pour jeûner et prier à l'Éternel. Alors, on va lire le passage. Il arriva après cela que les enfants de Moab et les enfants d'Ammon, car avec eux il y avait des Ammonites, vinrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint donc le rapporter à Josaphat en disant, « Il vient contre toi une grande multitude d'au-delà de la mer de Syrie, et les voici à Hatsaton Tamar, qui est en En-Gedi. » Alors Josaphat craignit, et il se disposa à rechercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Alors là, on parle d'un jeûne national. Juda s'assembla donc pour demander du secours de l'Éternel. On vint même de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et Josaphat se tint dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux parvis, et il dit... « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations, et n'as-tu pas en ta main la force et la puissance, en sorte que nul ne peut te résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité... qui ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, « S'il nous arrive quelque mal, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et en ta présence, car ton nom est en cette maison, et nous crierons à toi dans notre détresse, et tu nous exauceras et tu nous délivreras. Maintenant, voici les enfants d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu ne permis pas à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il se détourna d'eux et ne les détruisit pas. Les voici qui nous en récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as donné la possession. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas, car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et tout Juda se tenait devant l'Éternel, même avec leurs familles, leurs femmes et leurs enfants. Là, on parle vraiment d'un jeûne national. Tout le monde, femmes, enfants, tout le monde. Maintenant, un petit peu plus loin, dans 2 Chroniques, versets 14 à 30, on a la réponse de Dieu. C'est quand on étudie ces passages-là, on parle d'un jeûne national, mais il faut regarder aussi comment Dieu a répondu à ça. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les enfants d'Ézéph au milieu de l'assemblée. Et il dit, vous, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, soyez attentifs. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car ce ne sera pas à vous de combattre, mais à Dieu. Descendez demain contre eux, les voici qui montent par la montée de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Ce ne sera pas à vous de combattre en cette bataille. Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Demain, sortez au-devant d'eux, et l'Éternel sera avec vous. Alors Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se jetèrent devant l'Éternel, se prosternant devant l'Éternel. Et les Lévites, d'entre les enfants des Kehatites et d'entre les enfants des Korites, se levèrent pour célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et haute. Puis, le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, « Juda et vous, habitants de Jérusalem, écoutez-moi, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, ayant délibéré avec le peuple, il établit des chantres de l'Éternel qui célébraient sa sainte magnificence et marchant devant l'armée. Il disait, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde demeure à toujours. » Et au moment où ils commencèrent le chant et la louange, l'Éternel mit des embuscades contre les enfants d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui venaient contre Juda, et ils furent battus. Les enfants d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séir pour les vouer à l'interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent l'un l'autre à se détruire. Imaginez-vous, les armées étrangères viennent les attaquer. Dieu dit, ça c'est pas votre guerre, c'est la mienne, laissez-moi faire. Soyez là, observez. Et là, il nous montre que entre eux autres, ils s'entretuaient entre eux autres. Spécial. Et quand ils eurent fini, ils s'aidèrent l'un l'autre à se détruire. Et quand Juda arriva sur la hauteur d'où l'on voit le désert, ils regardèrent vers cette multitude. Et voici, c'était des cadavres gisant à terre, sans qu'il en fût épargné un seul. Ainsi, Josaphat et son peuple vinrent pour piller leur butin, et ils en trouvèrent parmi eux, au milieu des esclaves, des biens en abondance et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne pouvaient le porter. Et ils pillèrent le butin pendant 3 jours. Fallait-tu qu'il n'ait du stock à ramasser? Pendant 3 jours, ils ont pillé les biens de l'ennemi. Car il était considérable. Et le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de bénédiction. Dans certaines versions, c'est la vallée de Béréka. Il y en a plusieurs qui se servent de ça. La vallée de Béréka, c'est... Autrement dit, les chrétiens étant là, ils observent comment Dieu agit. Eux, ils n'interviennent même pas, ils ne sont même pas dans la guerre. Et Dieu les détruit complètement. Et eux, ils appellent ça la vallée de la bénédiction, je comprends. Car ils bénirent là l'Éternel, c'est pourquoi on a appelé ce lieu jusqu'à ce jour la vallée de bénédiction ou de Béréka, dépendamment des versions. Puis, tous les hommes de Juda et de Jérusalem et Joseph à leur tête reprirent joyeusement le chemin de Jérusalem, car l'Éternel leur avait donné de la joie au sujet de leurs ennemis. Ils entrèrent donc à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel avec des lyres, des harpes, des trompettes. Et la terreur de Dieu fut sur tous les royaumes des divers pays quand ils eurent appris que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et ainsi le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. C'est beau?
Oui.
Je trouve ça extraordinairement beau. Un autre exemple dans Néhémie, chapitre 9, les versets 1 à 3. Là, on a un exemple où le jeûne, l'humiliation et la repentance sont toutes les trois au rendez-vous. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, jeûnant, vêtus de sacs et ayant de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les étrangers, et ils se présentèrent, confessant leurs péchés et leurs iniquités de leurs pères. Ils se levèrent donc à leur place, et on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Imaginez-vous, une demi-journée où le peuple de Dieu, un quart du temps, tu confesses tes péchés, puis l'autre, tu... L'autre, c'est quoi, là? Ils firent, là, se prosternèrent devant l'Éternel. C'est spécial, une demi-journée complète, là. On parle d'une demi-journée. Alors, on parle de jeûne, d'humiliation, de confession de tes péchés. Esther, on a l'histoire d'Esther, chapitre 4, verset 16. « Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours, tant le jour que la nuit, et pour moi et, mes servantes. Et pour moi et mes servantes, nous jeûnerons de même, puis je m'en irai ainsi vers le roi, bien que ce soit contre la loi. Et s'il arrive que je périsse, je périrai. » Quel courage. Imagine-toi, dans ce temps-là, te présenter devant le roi sans que tu aies été invité, là, le roi avait réussi à dire, elle, là. Fait qu'elle se présentait devant le roi en sachant que si elle faisait, elle leur allait inviter tout le monde et ses servantes à dire, on jeûne, et après, on se présente devant le roi pour faire nos requêtes, puis si je crève, je crèverai. Est-ce qu'on aurait cette attitude-là, nous, aujourd'hui? On serait fort comme ça? Jonas, chapitre 3, verset 5 à 10. Tu souviens de l'histoire de Jonas? Jeûne, humiliation, repentance. Les trois éléments sont là. Et les gens de Ninive, croire à Dieu. Si quelqu'un veut comprendre l'histoire de Jonas, le livre de Jonas, il faut absolument qu'il comprenne comment les Ninivites étaient méchants. Et cruel. Apparemment, qu'il écorchait des gens vifs, il les coupait en morceaux dans la lanière. Puis les Ninivites étaient extrêmement violents envers toutes les nations qu'ils conquéraient. Et pourquoi que Jonas, il voulait pas y aller, c'était un peu des fois, faut-il aller chercher de l'information en dehors de la Bible. Lui, il voulait pas y aller parce que pour lui, c'était impossible que Dieu puisse vouloir faire du bien et faire grâce à un peuple aussi cruel. Il faut qu'on se remette dans le contexte. Après ça, on voit ici, il est allé prêcher, mais il est obligé de se faire jeter par-dessus le bord. Il s'est ramassé sur le bord. Il est rentré dans la ville, puis même là, il n'était pas disposé à le faire. La ville était assez grosse, 3 jours de marche. C'est un peu comme tu seras dans Montréal, là. Mm-hmm. Tu marches toujours. Et lui, il souhaitait qu'il ne se convertisse pas. Lui, selon lui, il avait un petit esprit vengeur, un peu. Il ne mérite pas ça. D'ailleurs, ça dit, « Et les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne, voyez-vous, et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. » La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta de dessus lui son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, un roi. Puis il fit proclamer et dire dans Ninive et par décret du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, et qu'il crie à Dieu avec force, et que chacun se détourne de sa mauvaise foi et de l'iniquité qui est dans ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, et ne se repentira pas, et ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Or, Dieu vit ce qu'il faisait, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit point. On se souvient comment Jonas a réagi. Il a bien mal pris ça. Il s'est mis en dessous d'un arbre. Il voulait mourir. Autrement dit, il en voulait à Dieu. Puis il n'était pas capable de pardonner à Dieu, si on peut dire ça de cette façon-là. Alors, il y a des jeûnes aussi qu'on pourrait dire que c'est des jeûnes particuliers, des jeûnes réguliers qui sont commandés par l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique, chapitre 16, versets 29 à 31, on a tous les Juifs qui se devaient de jeûner le jour de l'expiation. Verset 29, Lévitique 16. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. Alors, le grand commentateur de la Bible, Matthew Henry, croit que l'humiliation pratiquée par les Juifs consistait à jeûner. Pendant que le peuple juif a été exilé à Babylone, leurs leaders ont institué 4 jeûnes annuels. On a ça dans Zacharie, chapitre 8, verset 19. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e mois deviendra pour la nation de Juda des jours de joie et d'allégresse et des solennités heureuses, mais aimer la vérité et la paix. Alors on voit que c'est pas d'hier qu'ils se pratiquent des jeûnes dans le but d'obtenir la faveur de Dieu, de se repentir ou de prier. On a aussi l'histoire du pharisien dans le Nouveau Testament, qui se félicitait, lui, de garder la tradition de ses pères. Il dit dans Luc 18, verset 12, « Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Même si on peut trouver une justification biblique, le leader et prédicateur John Wesley n'aurait pas accepté d'ordonner un nouveau pasteur si celui-ci ne jeûnait pas chaque mercredi et vendredi. On recule au 19e. John Wesley, c'est un Arménien, mais il reste que c'était un homme très zélé qui a fait le tour de l'Angleterre à cheval pour prêcher aux Anglais. Lui, les Wesleyens, ce qu'on appelle les Wesleyens, il y en a encore partout aux États-Unis, au Canada. Lui, à cette époque-là, il n'aurait pas accepté que quelqu'un devienne pasteur s'il ne jeûnait pas le mercredi et le vendredi. Un peu comme on vient de mentionner, ben, où est-ce qu'il a trouvé sa référence biblique. Mais il reste que quand même, ça donne une idée que pour lui, à cette époque-là, c'était important que quelqu'un fasse cette activité-là. Et il y a aussi le jeûne qu'on appelle le 9e sorte de jeûne, le jeûne occasionnel. C'est celui qui est pratiqué lors d'occasions spéciales ou de besoins particuliers. Matthieu 9, versets 14 et 15. Alors les disciples de Jean vinrent à Jésus et lui dirent, « D'où vient que nous et les pharisiens nous jeûnons souvent et que tes disciples ne jeûnent point? » Et Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais le temps viendra que l'époux leur sera ôté, et alors ils jeûneront. » Autrement dit, mes disciples vont jeûner après mon départ. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a dit tantôt qu'on ne devrait pas jeûner si on n'a pas un objectif spirituel précis. Alors, c'est ça qu'on va regarder. Le jeûne biblique doit toujours se réaliser avec un objectif spirituel clair et précis. L'auteur que j'utilise, il en mentionne 10. Quand on jeûne, on se devrait d'avoir un ou plusieurs de ces objectifs-là à l'esprit. Le premier, c'est pour renforcer notre prière. Alors, lorsque les croyants désirent augmenter la force de leur prière, souvent, ils vont l'utiliser en combinaison avec le jeûne. Le jeûne et la prière, c'est fait pour l'ensemble. On a l'exemple dans Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne afin de nous humilier devant notre Dieu en le priant de nous donner un heureux voyage pour nous et pour nos petits-enfants et pour tous nos biens. Car j'avais eu honte de demander au roi des troupes et des cavaliers pour nous défendre des ennemis par le chemin. Car nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est favorable à tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. Nous jeûnâmes donc et nous implorâmes le secours de notre Dieu pour cela et nous exauça. » Il y a un lien entre le jeûne. Le jeûne démontre à Dieu que tu es sérieux dans ta demande. Tu comprends qu'il y a une demande qui est importante, puis tu es prête à jeûner pour ça. Rappelons-nous que si nous demandons quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu et du décret divin éternel, aucun jeûne, aussi important soit-il, ne fera fléchir le Seigneur. Bien entendu, on ne peut pas demander quelque chose, penser qu'on peut commander Dieu. On l'avait parlé dans la première leçon. Quand on jeûne, il ne faut pas penser que notre jeûne oblige Dieu. On n'oblige Dieu jamais. Pas compliqué. Mais il faut se souvenir qu'on ne peut pas forcer la main de Dieu, comme on dit. Le jeûne ajoute seulement une note d'urgence et d'opportunité à notre prière et donne de la force à notre plaidoirie devant Dieu. Alors, on termine ce point-là. Daniel 9, versets 2 et 3. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem était de 70 ans. Comment il savait ça? Par les Écritures. Les Écritures avaient dit que le peuple irait à Babylone pendant 70 ans et lui, il savait la date du départ. Là, il savait que ça faisait 70 ans. Alors, il savait que le moment du retour est arrivé. Et là, le verset 3, il dit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour lui présenter des requêtes et des supplications avec jeûne et en prenant le sac et la cendre. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il s'assoyait désolé, prenant pleinement conscience que les péchés qu'ils ont commis leur ont mérité d'être envoyés là. C'est une forme d'humiliation. Tu jeûnes, tu invites les autres à jeûner, mais tu te rends compte que Dieu vous a envoyé là parce qu'il avait une raison. Vous avez péché. C'est ce qu'il dit. Il dit, devant la face de Dieu, présenter des requêtes et des supplications avec jeûne et en prenant le sac et la cendre. L'humiliation. Alors, souvent, les choses vont ensemble. La prière, le jeûne, la repentance, l'humiliation, la volonté d'obtenir plus de force dans ta prière. Le jeûne est le meilleur compagnon que nous pouvons ajouter à nos prières. Ajoutons donc cette arme puissante à notre arsenal spirituel. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. La leçon, probablement, on va en avoir au moins pour encore deux autres leçons. Mais c'est important qu'on revise ça, surtout si on a l'intention de faire un jeûne dans les prochaines semaines, prochaines années, prochaines journées. Surtout prochaines journées, je dirais. Prochaines années. Ouais. Prochaines journées, je dirais. Ouais. Faites un jeûne, bien, de reviser, de le faire correctement, le faire bibliquement, si on veut que notre jeûne porte fruit. Alors, on va terminer là pour aujourd'hui. Amen.